Bonjour, vous écoutez Au Bon Soin, le podcast qui ausculte les politiques de santé. Je m'appelle Adrien Renaud et ce programme vous est proposé par What's Up Doc.
C'est pas la droite, la France.
Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste.
Parce que c'est notre projet !
Vive la République !
Il y a deux types. L'un est barbu, l'autre a une drôle de houppette. Ils marchent au milieu de dunes de sable s'étendant à perte de vue. Ils ont des hallucinations et voient des bouteilles d'alcool sortir du sol. L'image d'Hergé est si puissante qu'elle influence encore notre représentation de ce qu'est le désert. Et le plus fort, c'est qu'elle influence aussi un peu notre représentation de ce qu'est un désert médical. Un grand espace vide qu'il vaut mieux éviter et dont il faut sortir à tout prix si par malheur on s'y retrouve. Sauf que les déserts médicaux ne sont pas comme ceux de Tintin. Des habitants y vivent et les soignants y travaillent. Comment améliorer le sort des premiers comme des seconds? C'est la question à 1000 milliards de mille sabords qu'Au Bon Soin va traiter dans les minutes qui viennent. Mais avant, écoutez ça.
Aujourd'hui, 10% de la population n'a pas de médecin traitant. Et donc on a des vraies zones de déserts médicaux qui créent de l'injustice territoriale, avec des populations qui sont très précarisées sur le plan de la santé. Et on a 5% de la population des plus de 65 ans qui sont en ce qu'on appelle des affections de longue durée qui ne trouvent plus de médecins traitants. D'abord, aider les médecins de ville, comme les dentistes, pour qu'ils puissent prendre davantage de patients. Ce qui veut dire généraliser ce qu'on a commencé à faire, les assistants médicaux pour tous, les infirmiers salariés subventionnés dans les zones moins dotées. Ensuite, c'est s'appuyer sur tous nos professionnels de santé et pouvoir désigner, par exemple, un pharmacien ou un infirmier référent sur un territoire de santé. Troisième point, assumer un renfort massif dans les déserts médicaux, avec des permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, permettre de renforcer le lien entre l'hôpital et la ville, développer la télé-expertise, la téléconsultation, déployer la quatrième année d'internat pour les médecins généralistes dans les zones rurales, réguler davantage l'installation, accompagner les jeunes qui sont issus de ces territoires, en les accompagnant en termes de logement et justement sur le plan administratif.
Vous avez reconnu Emmanuel Macron, qui nous rappelait en mars dernier, lors de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle, combien les choses sont simples quand on est en campagne. Mais il ne faut pas s'y tromper. La réalité, c'est que les déserts médicaux ne vont pas disparaître dans un futur proche. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à en atténuer les effets. Et pour cela, on a sans doute besoin de décentrer un peu le regard. C'est justement ce que se propose de faire mon invité d'aujourd'hui, le capitaine ad hoc des déserts médicaux, Olivier Babinet. Olivier a notamment coécrit en 2021 avec Corinne Isnarbanis un petit ouvrage très instructif sur le sujet, Les déserts médicaux en question, aux éditions IG. Bonjour Olivier.
Bonjour Adrien, merci pour l'invitation.
Alors Olivier, on va commencer par les formalités d'usage. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter en quelques mots, nous raconter ton parcours et surtout nous dire pourquoi j'ai bien fait de t'inviter pour parler des déserts?
Avec plaisir. Donc en fait, j'ai eu à titre professionnel différentes vies. J'ai piloté tout d'abord des projets de santé publique auprès des ministères de la Santé en Afrique, en Amérique latine et en Asie, en particulier pour l'OMS et les bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement sur Amérique latine. Ensuite, j'ai mené des missions de conseil, à la fois en stratégie, en organisation, en performance, en e-santé, notamment auprès des établissements de santé et médico-sociaux, aussi bien publics que privés. Et ma troisième vie, c'est l'expérience opérationnelle, finalement, de PDG de clinique, directeur d'hôpital, d'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, de centre de santé, de performance en CHU, et également même directeur de santé d'un conseil départemental. Et je suis actuellement, comme tu le disais à l'instant, expert numérique en santé à l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Je souhaiterais juste, avant de démarrer, appuyer sur un point. J'interviens dans ce podcast à titre strictement personnel, en tant qu'essayiste. Voilà, et le contenu de notre échange n'engage que moi.
Et c'est déjà pas mal. Merci Olivier. Je vais commencer par te demander de nous donner quelques chiffres. Il est grand comment ce désert?
Quelques chiffres clés à retenir pour ne pas se noyer non plus dans du multiples chiffres. 11 300 communes sont concernées. Ça fait une commune sur trois. C'est énorme.
Ouais.
Voilà. Et les territoires sous-dotés en médecins généralistes, pour leur part, concernent aujourd'hui près de 6% de la population, soit environ 4 millions de Français. Voilà. Si on fait un distinguo dans les types de médecins sur l'offre de soins, on a aujourd'hui autour de 227 000 médecins qui sont en activité, 50-50 à peu près entre médecins généralistes et spécialistes, mais qui sont globalement, en fait, contrairement à ce qu'on peut entendre par diverses sources, qui sont en légère augmentation au niveau global. Ouais. Le distinguo, en fait, il se fait entre les spécialistes et les médecins généralistes. Les spécialistes sont en effet en légère augmentation, qu'ils soient libéraux ou salariés, plutôt les salariés d'ailleurs en nette augmentation. En revanche, ce sont les MG, les médecins généralistes libéraux, qui, lui, est en légère baisse à moins 2%.
Alors, on a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure parler d'infirmiers référents, d'assistants médicaux, de régulation des installations. Il osait dire le mot à l'époque de la campagne électorale. Quelles sont les pistes qui te paraissent bonnes et quelles sont les autres, à ton avis?
En fait, les mesures phares, elles proviennent, et ce qui est bien, c'est que les trois ministres de la Santé qui se sont suivis ont gardé cette structuration sur trois dimensions. Il y a un, l'amélioration de la démographie médicale, parce qu'on a vu qu'en effet, il y a peut-être un sujet là. Il y a un maillage renforcé. Et la troisième dimension, c'est l'optimisation du temps médical. Mm-hmm. Si on prend le premier, la démographie médicale, comment l'améliorer? Il y a une action sur le numerus clausus qui a été supprimée en 2020. Mm-hmm. Et maintenant, ce sont les territoires, ce sont les ARS qui vont, en fonction des besoins, mettre le nombre de candidats et à la sortie des concours. Et puis, il y a un sujet qui est le sujet tabou, qui est la liberté d'installation des médecins libéraux, que l'on met délicatement sous le boisseau au fur et à mesure des années qui passent. Ouais. Le deuxième axe, on l'a vu, c'est le maillage. Ça, c'est un très bon sujet. C'est en fait faire que l'exercice isolé des professionnels de santé, des médecins en particulier, soit l'exception et non pas la règle. Mmh. Comment on peut s'y prendre? C'est d'abord de travailler sur, de soutenir autant que possible les projets d'exercice coordonnés. Ouais. En particulier, par exemple, dans la création des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui sont en général financées par les conseils départementaux. Mais là, l'État, puisqu'on est quand même sur l'État, l'aide de l'État, peut aider, peut les accompagner, et en particulier simplifier, peut-être, la création de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, pardon. Mmh. Le dernier axe dont on parlait, Adrien, tout à l'heure, c'est le maillage, c'est l'optimisation, pardon, du temps médical. Ouais. Donc, on n'est plus en train de parler d'augmenter le nombre de médecins ou d'autres professionnels de santé. On essaye de dégager du temps médical et de réduire tout ce qui n'est pas temps médical. Et là, on a une dynamique intéressante. D'abord, on a de très belles réussites. En particulier, en ophtalmo, par exemple, on a eu des protocoles de coopération en ophtalmologie entre les ophtalmologues et les orthoptistes. Ça a libéré un temps considérable aux ophtalmos, parce qu'il y a beaucoup de pré-examens qui sont faits. Les ophtalmos interprètent, bien entendu, parce que ça, c'est de leur expertise, mais ils gagnent énormément de temps sur une consultation. On a également les IPA, ce qui veut dire infirmiers en pratique avancée, voilà, qui ont différents domaines d'intervention, et qui sont des experts finalement de leur sujet, et sur lequel, que ce soit en pathologie, soins primaires, en onco et en maladie rénale chronique, peuvent intervenir de manière assez autonome. Et on a un exemple qui est extrêmement ancien finalement, qui est en radiologie. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun radiologue qui va faire le choix des images. Donc on a des manipulateurs en électroradiologie qui font le choix des images, qui font d'abord les images, les clichés, et qui après font les choix des images, même sur des équipements assez sophistiqués.
Alors là, tu parles de solutions assez intéressantes, mais si on regarde les IPA, par exemple, ils sont un millier pour l'instant sur notre territoire. Donc ce n'est pas eux qui vont résoudre la question.
Absolument. Ça fait partie de la palette de solutions. En fait, dans les solutions qu'on est en train de voir aujourd'hui, il n'y en a aucune qui toute seule peut y arriver. Mm-hmm. Il faut combiner tout. Mais tu as parfaitement raison. Le souci des EPA, et moi j'ai eu ce souci-là, en effet, dans l'exercice de mes fonctions, lorsqu'on a voulu, petit 1, envoyer des EPA en formation, déjà pendant 2 ans, les personnes sont absentes, ne peuvent plus être là, donc c'est du plein temps, donc c'est pas possible. Donc c'est une formation de 2 ans. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça confère pour les gens qui sont en formation un grade de master. Mais il y a un investissement de temps, au sens de libérer des IDE, des infirmiers diplômés d'État, pour qu'ils puissent faire leur formation en EPA, et après, en effet, d'utiliser l'EPA et de ne pas, comme certains peuvent le faire aujourd'hui, s'opposer à la délégation de compétences.
Je voulais y venir, parce que tu as parlé de l'exemple des ophtalmos, tu as parlé des IPA, tu as parlé des manipulateurs radio, et tout ça, c'est effectivement des solutions qui supposent que le médecin se décharge d'une partie de ses responsabilités, et chez une partie de la profession, ça on va dire, suscite quelques crispations. Est-ce qu'il y a une évolution à chercher du côté de la profession médicale sur cette question-là?
Très certainement. Et d'ailleurs, le ministre s'est permis de le dire lors de son intervention, et à juste titre, fin janvier, en appelant solennellement à dépasser les intérêts personnels, corporatistes et sectoriels pour réformer le système de santé, qui est lui-même en grande difficulté. Sinon, on n'y arrivera pas. Cela étant dit, on s'aperçoit qu'il y a quand même un bon nombre de médecins dans le corps médical qui sont ouverts quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit, on est très indépendant dans le milieu médical, hein, très indépendant. Donc on veut prendre tout sur soi, on a tout sur les épaules, et en même temps, on ne veut pas se décharger de certaines compétences. Il y a quand même une certaine contradiction, très honnêtement.
Effectivement. L'autre chose que sur laquelle je voulais qu'on insiste un petit peu, c'est que tu dis qu'il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs, et tu parles pas aussi de solutions qui ne vont pas forcément produire leurs effets tout de suite. C'est-à-dire que, un protocole de coopération, c'est relativement rapide à mettre en place, mais former des médecins grâce à la suppression du numerus clausus, c'est beaucoup moins rapide. Et en attendant, il va quand même falloir que les gens qui habitent dans ces déserts géographiques et qui y travaillent trouvent des solutions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ?
Alors, à ces gens, on peut dire qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises demain matin. C'est une image, bien entendu. Donc, lundi matin, j'envoie le message au ministre de la Santé. Nous pouvons, en effet, faire certaines choses. D'abord, les protocoles de coopération, on peut les simplifier. Parce que tu n'imagines pas la complexité, en fait. Déjà, première chose. Je n'ose pas dire, en effet, pour avoir été confronté à ça, la difficulté qu'on a simplement pour faire fonctionner la plateforme nationale, pour avoir, en effet, cette malheureuse délégation de compétences. Mais il y a d'autres mesures que je disais que le ministre vient. Il y a 15 mesures qu'il a lancées avant-hier pour simplifier et réduire les tâches administratives des médecins et donc libérer du temps médical. Et là, franchement, ça peut se faire rapidement. Par exemple, faire respecter des simplifications qui sont déjà acquises. Et il proposait, à juste titre, qu'il était assez urgent que le certificat médical devienne l'exception. Aujourd'hui, ça consomme entre 1h30 et 2h par semaine pour s'occuper simplement de ces certificats médicaux. Et il a proposé que les règles soient clarifiées d'ici la fin du premier trimestre 2023. Donc voilà un exemple très concret. Dans 2 mois, le problème devrait être réglé. En tout cas, les règles sont claires et les médecins ne seront plus submergés par des certificats médicaux totalement inutiles dans 90% des cas.
Ok. J'aime bien parce que tu as une approche plus positive que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce sujet-là et ça fait du bien, même si parfois, en t'écoutant, j'aimerais te croire.
C'est pas la droite, la France.
Alors, on a parlé de géographie, là, jusqu'ici, de déserts géographiques, mais l'originalité de ton regard, Olivier, c'est aussi de parler d'autres déserts médicaux. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut dépasser la géographie sur cette question-là ?
Oui, merci d'ouvrir cette question, parce qu'en fait, personne n'en parle jamais. Dans l'imaginaire collectif, comme tu l'as dit avec ton illustration avec le capitaine Haddock et Tintin, le désert médical, c'est une étendue inhabitée, c'est la ruralité à perte de vue, des villages dépeuplés, sans école, sans service public, et quelques malheureux habitants obligés de s'exiler pour être soignés. Or, la réalité est tout autre. Au-delà de ces territoires, en effet, dépourvus d'offres sanitaires, ou en tout cas sous-denses en offres sanitaires, les déserts médicaux, et avec ma co-autrice, donc Rune Sabanis, on en s'est aperçu, que les déserts médicaux sont partout. Ils sont partout. De la naissance à la dépendance, en passant par la santé mentale, les maladies rares et au cœur de la crise sanitaire. Voilà. Donc en fait, on a retenu comme l'expression d'un désert médical la discordance qu'il peut y avoir entre le besoin et l'offre de santé.
Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Olivier, de ces autres déserts médicaux ?
La santé scolaire est, avec, comme la PMI, la protection maternelle et infantile, un dispositif qui est crucial en raison des objectifs de dépistage obligatoires qu'on a et qui concerne notamment les gamins à 6 ans et à 12 ans qui sont scolarisés. Or, le constat est accablant. Moins de 1 enfant sur 5 bénéficie de la visite médicale à 6 ans par des médecins scolaires, alors qu'elle est déterminante au début des apprentissages scolaires, et qu'elle est en principe universelle, ce qui veut dire que chaque enfant y a droit.
Je te confirme qu'à la maison, sur un échantillon de 2 enfants, 0 ont eu cette chance.
Et le bilan infirmier à 12 ans a progressé, mais il n'est que de 62% sur l'ensemble des élèves. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la litanie sur le manque de ressources, à contre-courant du bon sens et de toutes les organisations sanitaires, il y a un cloisonnement totale qui a été consacrée par l'éducation, l'éducation nationale comme un principe d'organisation de la politique de dépistage. Donc on a, depuis un arrêté de 2015, la visite médicale des 6 ans qui relève du seul médecin et uniquement du médecin, tandis que de l'autre côté, à 12 ans, les IDE sont les seuls à se charger des enfants.
Ok. Alors, donc santé scolaire, ça je comprends bien. Est-ce que tu as un autre exemple de désert non géographique avant qu'on puisse, qu'on s'achemine un petit peu vers la fin de notre entretien ?
Il y a peut-être un sujet qui est assez, assez criant, c'est les personnes âgées. Mm-hmm. Hein, en fin de vie, on est en fin de vie. Et là, on se retrouve avec des failles pour les personnes en situation de dépendance qui est catastrophique, puisqu'aujourd'hui, on va avoir dans les années qui viennent, en 2050, près de 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui sont en perte de capacité physique et cognitive. Et l'accompagnement, qu'il soit à domicile ou qu'il soit dans le monde des EHPAD, est complètement à revoir. Mmh. On a une rupture du parcours, en fait, complet, et il est nécessaire en effet d'arriver à trouver des solutions. Donc ça veut dire que les personnes âgées se retrouvent en difficulté constante, mmh. qu'ils soient à la maison, avec de multiples intervenants, bien entendu à domicile, et également le repenser complètement, de remettre à plat le modèle de l'EHPAD. Mmh. Il faut retenir quelques chiffres quand même pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les EHPAD, c'est vraiment de gigantesques déserts médicaux. J'insiste là-dessus. Ouais. On a 800 000 personnes en France qui sont concernées par cette problématique-là. Un chiffre intéressant, c'est que en moyenne, un résident à l'EHPAD souffre d'environ 8 pathologies. Alzheimer, Parkinson, problèmes cardiovasculaires, respiratoires, enduits crunaux, dermatologie. Or, en France, un résident en EHPAD bénéficie d'environ une consultation de spécialiste, toutes spécialités confondues, par an et par résident. Ouais. Donc on voit un petit peu le chemin à parcourir.
Une consultation en moyenne pour 8 pathologies par an. Effectivement, ça me paraît être une bonne illustration de ce que peut être un désert quand on sort de la géographie, effectivement. Alors, Olivier, cette saison, je termine avec tous mes invités avec deux questions un petit peu rituelles. La première doit nous faire voyager un peu. Est-ce que tu penses à un pays étranger sans nous servir de modèle, puisqu'il n'y a pas vraiment de modèle en la matière, pourrait nous servir de source d'inspiration sur cette question des déserts médicaux?
Oui, un exemple intéressant, c'est le Canada. Ah oui. Le Canada, ben oui, parce que ben d'abord, et le Canada, pas le Canada en général, le Québec. Mm-hmm. Donc on se retrouve en tant que francophone. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est au niveau des ressources médicales, c'est la fin de la liberté d'installation. Ah mm-hmm. tiens, ça nous rappelle quelque chose. Que c'est le sujet tabou qu'on laisse sous le boisseau. Après 40 ans d'incitation financière qui ont fait comme nous, qui ont été des flops, en effet, c'est totalement inefficace. Aujourd'hui, l'installation des jeunes médecins se fait en fonction des besoins de la population. Ouais. Donc on favorise l'installation des médecins avec un bonus, en effet, sur les actes médicaux. Et de l'autre côté, s'ils ne respectent pas les règles, eh bien, les autorités baissent le revenu de 30%. Et comme par miracle, eh bien aujourd'hui, ça se passe remarquablement bien, avec, dans les zones les plus démunies, une augmentation jusqu'à 70%, plus de 70% dans ces zones difficiles. Et inversement, dans celles où il y avait une sur-offre, on a une diminution, en effet, de 20%. Donc, une solution sur la liberté d'installation, et également l'équivalent, on parlait des EPA tout à l'heure, Adrien, la délégation de compétences mm-hmm. fonctionne bien avec des infirmières équivalentes aux EPA qu'on appelle des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées.
Alors, après donc les déserts blancs, puisque si je peux me permettre cette image pour le Canada, deuxième question rituelle avant de nous dire au revoir, est-ce que tu peux nous parler un peu de littérature et nous donner des conseils de lecture sur le sujet des déserts médicaux? Alors tu peux citer tes ouvrages, c'est un peu l'instant autopromo, mais si t'es sympa, tu peux aussi citer les ouvrages d'autres personnes qui sont aussi des ouvrages intéressants, je pense.
Bon, comme j'espère que je suis sympa, on va ouvrir en effet le champ. Bon, je ne peux pas faire autrement que de citer en effet les ouvrages. Donc je suis co-auteur avec le professeur Corinne Starmanis de deux ouvrages qui sont Les déserts médicaux en question aux éditions Égée, que tu as eu la gentillesse de citer, mais également un autre ouvrage qui s'appelle La e-santé en question. Mm-hmm. Et on commençait à introduire justement le sujet des déserts médicaux dans ce premier ouvrage. J'ai également participé à un ouvrage collectif avec une cinquantaine donc, de co-auteurs qui s'appelle Innovation et management des structures de santé en France aux éditions LEH. Mm-hmm. Sur le sujet des déserts médicaux, il y a une multitude de rapports mm-hmm. parlementaires, en fait. Ouais. Mais dans les ouvrages, il n'y a pas grand-chose. Je citerai quand même un ouvrage qui me semble intéressant, qui s'appelle tout simplement « Les déserts médicaux », qui est édité par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui, en réalisant une veille, hein, comme il le fait souvent, des pétitions de citoyens en ligne, mm-hmm. a vu que la gravité du sujet central dans le débat public les déserts médicaux faisaient en effet partie du débat. Et, mais malheureusement, j'allais dire, comme toutes les publications, cet ouvrage, comme les autres, n'évoque pas, enfin, il n'évoque que les déserts médico-géographiques, il n'évoque pas les autres types de déserts.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier, pour cette conversation qui, je l'espère, aura permis un petit peu d'y voir plus clair sur la question des déserts médicaux, d'introduire un petit peu d'optimisme, parce que ce que j'aime bien dans ton regard, c'est qu'on n'est pas dans la déploration, on n'est pas dans le fatalisme. Tu nous dis qu'il y a des solutions, tu nous dis que c'est possible de faire des choses, même si pour parfois ça peut prendre du temps. Tu nous dis qu'il y a aussi des solutions qui peuvent aller vite, même si il faut aller à l'encontre de certains réflexes de certaines professions, suivez mon regard. En tout cas, avec toi, on n'est pas dans le crabe aux pinces d'or ou dans le pays de l'or noir. On essaye aussi de dépasser la question géographique pour voir que les déserts, c'est tout simplement une inadéquation entre l'offre et la demande de santé. Et ça, ça me plaît bien de voir la question de cette manière-là. Ben, merci beaucoup, Olivier, et au revoir.
Merci beaucoup, Adrien.
Voilà, c'était Au Bon Soin, un podcast présenté par Adrien Renaud et proposé par le magazine What's Up Doc, avec aujourd'hui Olivier Babinet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et mettez-nous autant d'étoiles que vous voulez sur la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.
C'est pas la droite, la France.
Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste.
Parce que c'est notre projet.
Au revoir.